Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. L'aéroport de Goma pourrait rouvrir bientôt et ça ne concerne que des vols humanitaires sous la coordination des institutions nationales. Précision du gouvernement congolais à l'issue du conseil des ministres d'hier. Cette précision de Kinshasa intervient après l'annonce de cette réouverture par le président français à la conférence internationale pour la paix tenue à Paris. Santé. Deux cas de poliomyélite notifiés dans les zones de santé de Kabambare et de Samba dans le Maniema. Une campagne de riposte est annoncée pour couper la chaîne de transmission, signale le chef de division de la santé dans le Maniema. Et puis, puisque nous parlons du Maniema, nous recevons comme invité le gouverneur de cette province. Le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse parle de la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, assise qui s'ouvre à Kindu la semaine prochaine. Madame, Messieurs, bonjour. Vous l'avez suivi hier sur nos antennes. Le président français Emmanuel Macron a annoncé pour bientôt la réouverture de l'aéroport de Goma. C'était jeudi à Paris lors de la conférence internationale pour la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, assise organisée par la France et le Togo. Cette réouverture de l'aéroport de Goma sera uniquement pour des vols humanitaires sous la coordination des institutions nationales, affirme le gouvernement congolais. C'est ce qui ressort du conseil des ministres d'hier à Kinshasa, dirigé par la première ministre Judith Suminwa. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu par le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, extrait proposé par Grace Amzati.
La réouverture de l'aéroport de Goma, présentée comme une priorité humanitaire stratégique, devrait s'effectuer dans un cadre sécurisé et coordonné sous autorité des institutions nationales afin d'assurer la continuité de la chaîne humanitaire et la protection des civils. Ainsi, elle a demandé à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, chacune en ce qui la concerne, à maintenir une coordination étroite et soutenue avec les acteurs humanitaires afin de préserver les voies d'accès et d'assurer la continuité de l'aide essentielle, y compris dans les zones où la présence de l'État demeure limitée. En même temps, le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été chargé de suivre de près la question de l'ouverture de l'aéroport de Goma strictement pour des besoins de vols humanitaires.
Rappelons que l'aéroport de Goma est fermé depuis près d'un an à la suite de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion de l'FC M23 soutenue par le Rwanda. Et interrogé au sujet de cette possible réouverture de l'aéroport de Goma, certains habitants de cette ville à l'unanimité saluent l'annonce. Pour eux, non seulement cette réouverture serait une lueur d'espoir de voir le ciel s'ouvrir à nouveau, mais ce serait également un pas vers une éventuelle décrispation de la situation humanitaire que connaît actuellement la partie orientale de la RDC. Je propose de suivre les uns et les autres au micro de Radio Okapi.
Je pense que c'est une lueur d'espoir de voir ces couloirs humanitaires être réouverts pour sauver des vies, soulager la souffrance de la population. Et nous soutenons ces plaidoyers pour que, à travers cette réouverture du couloir humanitaire, nous franchissons les pas vers l'unité nationale et la cohésion.
Nous, simples populations, nous n'avons pas affaire avec la politique, mais nous sommes juste des simples victimes. Raison pour laquelle nous sommes tellement contents d'attendre que bientôt l'aéroport de Goma sera opérationnel chez les humanitaires. Au gouvernement d'accélérer la mise en application maintenant pour que cet aéroport puisse être opérationnel.
C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, les habitants de Goma. Depuis plus ou moins 9 mois que l'aéroport de Goma est fermé, alors c'est notre souhait à nous. Nous voulons voir cette nouvelle puisse être concrète parce que cela peut nous aider par de l'aide humanitaire, surtout les médicaments, la nourriture, parce que la population, nous sommes en train de souffrir ici à Goma.
C'est une nouvelle qui nous enchante, mais qui parfois nous laisse aussi perplexes. Parce que nous nous demandons comment ça va s'opérer, mais nous pensons que ceux qui ont pris cette mesure prendront toutes les dispositions pour que cet aéroport rentre sous le contrôle du gouvernement congolais et tous les services aéroportuaires qui répondent au gouvernement congolais. Et nous pensons aussi que la même chose devait être faite pour l'aéroport de Kavumu, qui est l'aéroport secondaire.
Parlons santé à présent. Dans la province du Maniema, 2 cas confirmés de poliomyélite sont notifiés dans les zones de santé de Kabambare et de Samba. Il s'agit des 2 enfants de moins de 5 ans. Le chef de division de la santé qui confirme l'information annonce l'organisation d'une campagne de riposte du 13 au 15 novembre en cours dans cette zone de santé voisine afin de couper la chaîne de transmission. On écoute à ce sujet Dr Faustin Bekonda au micro de Florence Kizalunga.
La zone santé de Kabambare a notifié un cas de poliomyélite dérivé vaccinal et la santé de Samba aussi. Et c'est concernant la zone santé de Kabambare, c'est un enfant de 20 mois. Et celui de Samba a 2 ans et 8 mois, mais tous deux sont en phase 0 dose. Nous avons mené les investigations autour du cas et puis nous venons de passer aujourd'hui séance de plaidoyer auprès de l'autorité pour préparer la riposte qui est prévue du 13 au 15 novembre 2025. Et je vous informe que le lancement de cette riposte sera à Kasongo, juste à côté des zones santé concernées. Il y a 7 zones santé qui sont les zones santé voisines Todika, il y a zone santé de Kasongo, de Samba, Kibombo, Kunda, Salamabila, Kabambare et Lusangi. Donc il y en a 7 qui vont commencer et les autres, on va continuer avec les GNV à la fin de ce mois. La communauté, c'est juste vacciner les enfants. Puisque ce sont les enfants 0 dose, on doit vacciner tous les enfants pour se protéger contre la poliomyélite puisqu'il n'y a pas un traitement curatif.
Rendons-nous au Kasaï central. Les femmes qui ont déjà atteint la ménopause étaient en l'honneur hier 31 octobre à Kananga. En province, cette journée était placée sous le thème « Ménopause sans tabou, parlons-en pour mieux vivre ». Organisée par le réseau des femmes ménopausées d'Afrique, l'activité a été ponctuée par des conférences débats, des témoignages et autres scénettes en présence de nombreuses personnalités. C'est un reportage d'André Katende, rendu ici par Jean Gandou.
Cette rencontre, qui est une grande première pour la province, a réuni une centaine de femmes et des jeunes filles. Elles sont venues des différents quartiers de la ville. Elles ont été édifiées par un médecin sur ce qu'est la ménopause, ses symptômes et comment se comporter pendant cette période. Pour sa part, Jacqueline Tiwabwa, coordonnatrice provinciale du réseau des femmes ménopausées d'Afrique, est partie d'un constat. Les femmes ménopausées du Kasaï central sont stigmatisées dans la communauté. Voilà pourquoi il fallait éveiller leur conscience pour leur santé et bien-être psychologique. D'après elle, nous citons, le tabou et le silence autour de la ménopause sont meurtriers. La stigmatisation et les silences les sont également. D'où pour nous l'intérêt de faire de cette rencontre un cadre d'éveil de conscience, d'enrichissement des connaissances et de renforcement des actions en faveur de la santé et du bien-être psychologique et social de femmes ménopausées de notre province. Fin des citations. Notons que les participantes ont aussi la noble mission de sensibiliser aussi d'autres femmes sur cette question afin de briser le tabou pour leur bien-être.
Santé toujours. Dans la province de la Tchopo, le VIH-Sida prend des allures inquiétantes. Une hausse des cas de cette pandémie est enregistrée parmi les déplacés venus du Grand Nord, de l'Ituri, ainsi que ceux des conflits interethniques Mbole-Lingola. Au cours d'une réunion de crise organisée hier vendredi à Kisangani, il a été décidé d'intégrer de manière plus soutenue la lutte contre le VIH dans la réponse humanitaire. Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS, insiste sur l'urgence d'intensifier la sensibilisation, d'assurer la prise en charge médicale des malades et de renforcer l'engagement des autorités provinciales. On écoute Christine Sefou dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
Toutes ces situations-là perturbent la vie courante de la population et ça nécessite vraiment une intervention. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour redynamiser les activités des acteurs sur terrain afin qu'ils intègrent le VIH dans leurs interventions. Et ces déplacés-là proviennent même des provinces qui a une haute prévalence plus qu'ici chez nous. Nous sentons déjà que la prévalence de la province de la Tchopo va augmenter à cause de ces déplacés-là. Le PNLS est allé avec EIB et U-Report sensibiliser les déplacés à Simisim là-bas. On a dépisté quelques cas et on a trouvé des cas positifs. Quand un déplacé veut, il n'a pas d'habit, il a un besoin. Donc quelqu'un peut lui proposer n'importe quoi. Si toutes les femmes elles vont accepter et en acceptant, ne connaissant pas les statuts sérologiques de la personne qui les sollicite, il y a risque de contamination. Nous demanderions aux autorités qu'ils puissent s'impliquer. Et surtout que les gouverneurs de toutes les provinces ont été institués comme les présidents provinciaux de la couverture santé universelle.
Merci de nous recevoir à Mbujimayi. Nous parlons ici du report inédit d'hier vendredi de la plénière de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. C'est après un télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, invitant à Kinshasa, toute affaire cessante, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Explication Esther Ndalafina.
La plénière de ce vendredi a été consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le gouverneur de province. Sept députés provinciaux lui reprochent le détournement de 3 millions de dollars transférés par Kinshasa pour réaliser des projets à impact visible dans la province du Kasaï oriental. La plénière devrait également tabler sur la décision des députés provinciaux non signataires de la motion qui exige le limogeage de 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui ont appuyé la motion contre le gouverneur de province, qualifiant cette démarche de sans objet, étant donné que la Cour constitutionnelle s'était déjà exprimée sur le dossier au mois de septembre dernier. Déjà à la veille de cette plénière, donc jeudi soir, un groupe de manifestants en colère a vandalisé les bâtiments de l'Assemblée provinciale pour dénoncer cette deuxième motion de défiance à l'endroit de l'exécutif provincial, toujours autour de ce détournement de 3 millions de dollars. Dans un communiqué publié jeudi, la Fédération de l'UDPS Mbujimayi a invité ses membres à une marche de colère ce vendredi qui devrait chuter à l'Assemblée provinciale pour exiger le retrait de la motion de défiance contre le gouverneur de province. Les députés signataires de ce document disent vivre toujours en insécurité. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Du côté du Congo central, le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo est appelé à s'expliquer devant les élus provinciaux sur la politique générale de son gouvernement. C'est ce qu'a décidé hier vendredi la plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central qui a voté pour la recevabilité de la motion d'interpellation initiée par l'élu de Madimba, Serlin Gonda. Nana Plurich Mambou nous en parle.
Cette motion porte sur la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement provincial et sur plusieurs points jugés préoccupants, notamment la gestion financière, le projet d'infrastructure et la transparence dans les recettes pétrolières et minières du Congo central. Dans sa correspondance portant motion d'interpellation, l'élu de Madimba, le député provincial Serlin Gonda, demande également des éclaircissements sur plusieurs dossiers. La gestion de l'emprunt provincial de 20 millions de dollars, la rétrocession des recettes, les exonérations fiscales ainsi que la non-poursuite de certains chantiers publics, notamment les stades Lumumba de Matadi, Mfuki Dinkisi et Sokol de Boma, ainsi que celui du marché urbain de Matadi, communément appelé marché sud. À l'issue de cette plénière, le bureau de l'Assemblée provinciale a décidé de notifier le gouverneur afin qu'il se présente dans un délai de 8 jours pour répondre aux préoccupations des élus provinciaux. Notons qu'il s'agit de la deuxième plénière présidée par le nouveau président du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central depuis son installation en début du mois d'octobre. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, nous sommes en Ituri à présent. 3 jeunes hommes bien connus à Bunia ont été tués cette semaine par des hommes armés non identifiés au village de Tcheki. Nous sommes à 6 kilomètres du centre-ville de Bunia. Selon des sources sécuritaires, les victimes revenaient d'un carré minier tenu par des expatriés chinois et se rendaient à moto à Bunia lorsqu'elles sont tombées dans une embuscade de ces malfrats. Leur famille demande justice et la police dit avoir ouvert une enquête. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Samedi 31 octobre, il est 11h local. 3 jeunes, dont l'âge varie entre 25 et 30 ans, voyagent à moto, tombent dans une embuscade des hommes armés non identifiés à Tcheki, un petit village de Bambounia, non loin du centre-ville. Ces malfrats tirent sur eux à bout portant et emportent tous les biens des valeurs retrouvés sur les victimes. Plus de 2 heures après, leurs corps ligotés seront découverts dans la brousse par un groupe de jeunes à leur recherche. Les tout soigneusement filmés dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. Aussitôt, la nouvelle répandit. Des taximens et des membres des familles des 3 jeunes sont allés récupérer les corps des victimes pour les ramener à Bunia, ce qui a suscité des mouvements de colère pendant quelques heures dans la ville. La police dit avoir ouvert une enquête. Le commandant urbain de la PNC, colonel Abeli Mwango.
Les services de sécurité suivent avec particulière attention cette situation afin d'éviter la communautarisation des faits au risque de replonger les communautés en conflit.
Les familles des victimes exigent une enquête mitoise pour que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes. Bounia, Martial Kizabia Bongo, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la clôture hier vendredi à Lubumbashi de la 9e édition de l'Alternative Mining Indaba RDC. Pendant 3 jours, plus de 200 personnes ont participé à cette conférence. L'activité a mis l'accent sur la participation de la société civile et des communautés impactées par les activités minières. L'objectif est de faire des communautés les premières bénéficiaires de l'exploitation minière et de les associer à tous les processus du travail minier. Le compte-rendu de Paulin Munanga.
Au cours de cette conférence, les discussions ont été axées sur les impacts socio-économiques de l'exploitation minière et sur le développement inclusif du pays en tenant compte des communautés locales. Dona Savou, représentant d'Afrioch Kolwezi, revient sur quelques problèmes causés par les activités minières sur les communautés à Kolwezi.
Il y a beaucoup de communautés qui sont sous cette menace de la délocalisation. Je vais citer Tchaboula par l'entreprise Comus. C'est une histoire qui date d'il y a 3 ans maintenant. Il y a Moussonoï qui est menacé dans sa partie Oshwe, où il y a des maisons qui sont grandement fissurées, les gens y vivent. Il y a les autres communautés qui seront impactées par la compagnie minière de Tondo, qui sont aussi sous les coups d'être délocalisées.
Présente à la conférence, l'élu national de Luboudi, Dominique Munongo Inamizi, explique l'apport des députés à cette 9e édition de l'Alternative Mining Indaba.
On voulait avoir un échange à bâton rompu avec les invités qui nous ont posé des questions par rapport à nous en tant qu'élus. Que faisons-nous exactement au niveau de l'Assemblée? Est-ce que réellement les gens sont au parfum de ce qui se passe dans le secteur minier? Est-ce que les ressources naturelles intéressent les autres députés? Ou au niveau national, quelle influence on peut avoir?
La 10e édition de l'Alternative Mining Indaba est prévue pour l'année prochaine. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Présidentielle 2025 en Tanzanie, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan remporte le scrutin avec 97,66% des voix selon les résultats définitifs proclamés ce samedi 1er novembre par la commission électorale à la télévision d'État. Le processus post-électoral en Tanzanie a été marqué par 3 jours de violence. En effet, le pays a sombré dans la violence mercredi, jour d'élection, scrutin qui se sont déroulés sans l'opposition, les deux principaux adversaires de la chef de l'État ayant été soit emprisonné, soit disqualifié. L'opposition évoque un bilan de 700 morts après les manifestations. Samia Suluhu n'a fait aucun commentaire sur ces violences.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse. Il s'exprime sur la 2e édition de la conférence portant sur les mines, l'énergie et les infrastructures, assise qui s'ouvre à Kindu le lundi 3 jusqu'au mercredi 5 novembre 2025. Pour lui, cette rencontre sera une vitrine pour vendre toutes les potentialités du Maniema afin de chercher des investisseurs. Moussa Kabwankubi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
Du 3 au 5 novembre s'ouvre la 2e édition de la conférence sur les mines, énergie et les infrastructures. L'objectif de cette 2e conférence?
Alors, l'objectif principal de cette 2e édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures est celui d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première édition de cette conférence. Donc, il sera question lors de cette 2e édition de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ne l'a pas été et pourquoi. Alors, de manière spécifique par secteur, nous pouvons dire que nous poursuivons l'objectif, par exemple dans le secteur des mines, de relancer au moins 2 ou 3 entreprises minières industrielles. Donc, nous voulons la reprise des activités minières industrielles dans la province du Maniema. Le potentiel, il est énorme. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Le Maniema, c'est la première réserve de notre pays de la cassiterite. Le Maniema, aujourd'hui, c'est la première province en termes de production d'or artisanal et retracé par DRC Gold. Et le Maniema, c'est la deuxième réserve de wolframite et du coltan. Le Maniema, c'est aussi du cuivre en quantité industrielle, mais surtout en teneur extraordinaire ou exceptionnelle.
Comme il s'agit d'une évaluation, alors en paix de mots, qu'est-ce que la première conférence a produit?
Alors, la première conférence, nous considérons qu'elle a produit déjà beaucoup de choses. Par exemple, dans les secteurs miniers, lors de la première édition, nous avons constaté, par exemple, que le Maniema n'avait pas exporté d'or, de production artisanale, ni de production industrielle. Et nous avons constaté, par exemple, que en 2022 et 2023, l'exportation d'or était de zéro parce que ce n'était pas retracé. Alors, lors de cette première édition, nous avons pris comme recommandation de mettre en place des grands centres de négoces. Et c'est comme ça que nous avons négocié avec DRC Gold, qui a implanté ses bureaux au Maniema. Et depuis le mois de mars 2025, jusqu'à ce jour, nous sommes déjà à plus de 800 kg d'or. Pour nous, c'est déjà une entrée importante de devises. Et surtout, là, nous pensons que ce sont des évidences. Et du côté des infrastructures, l'une des grandes recommandations formulées était de désenclaver la province du Maniema. Et là, les résultats, c'est que nous venons de réceptionner 500 kilomètres de routes réhabilitées sur fonds propres à travers les taxes conventionnelles par le gouvernement provincial. Avec cela, nous avons de bonnes informations que nous réservons la primaire aux autres autorités qui vont venir. Et nous pensons que sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour une fois, le Maniema, depuis plus de 40 ans, va s'ouvrir au reste du pays. Et du côté de l'énergie, il y a de grandes avancées avec les contacts que nous avons. Peut-être qu'on va nous annoncer le débit des travaux de réhabilitation des centrales de Lujurukuru à Kalima, de Ambwe à Kailo, de telle sorte que nous pourrions produire 10 mégawatts et desservir les villes de Kindu, Kalima, Kailo et les environs.
Alors, pour cette deuxième édition, quelles seraient vos attentes?
Les attentes sont toujours nombreuses. Nous, la finalité pour nous, les organisateurs de la conférence, c'est de voir comment transformer les potentialités de la province en richesse. Parce que c'est bien de dire qu'on a beaucoup de cassiterites, qu'on a beaucoup d'or, mais comment ces potentialités vont se transformer en richesse afin de contribuer au bien-être de la population du Maniema.
Pensez-vous qu'une fois la réussite de cette conférence, la province va avoir son gain de cause?
Oui, je pense que c'est ce que nous venions de dire. Pour une fois, nous allons par exemple relier Kindu aux autres provinces. Nous allons voir comment créer des chaînes de valeur et c'est à partir de cette transformation, petite soit-elle, que nous pouvons créer des emplois.
Moïse Moussa Kabankoubi, merci.
Merci madame.
Le gouverneur du Maniema répondu aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jean Gandou, Jean-Claude Sial à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.